there are such things as flying saucers.
Flying saucers, Captain, are still a rumor.
Radio Campus 88.3.
Tout semble incroyable, et pourtant, on a la sensation d'être dans la réalité.
Thank you. Depuis qu'on est en guerre, les gens se fichent de tout, c'est chacun pour soi. Il n'y a que vous qui pensez aux autres.
Radio Campus 88.3.
Je vous en prie, il faut que vous m'aidiez.
Dites-moi tout. Vous savez bien que je ne peux rien vous refuser.
Oh, merci, je suis heureuse.
Ondulation.
Média numérique libre.
Ondulation.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi, passé de 10 minutes sur Radio Campus Orléans, je suis Erwan et bienvenue pour cette deuxième édition du festival Ondulation, le festival de la création radiophonique et numérique de Radio Campus Orléans. Alors une édition, deuxième édition pleine de surprises avec une vingtaine d'émissions radio qui vont se produire tout au long de la semaine au Bouillon, le centre culturel de l'université d'Orléans, autour de cette thématique médias et numérique libre. Il y aura également des ateliers radio, allez vous inscrire, je vous en parlerai un peu plus tard dans l'émission, et également jeudi soir on fera une soirée concert. Mais pour l'heure, on va parler dans cette édition spéciale d'Écoute ta fac de projets de services de l'université qui justement œuvrent dans le domaine de numérique, de la technologie, également de la pédagogie innovante. Et on en parle avec toi Marine. Bonjour Marine.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Exbraya. Bonjour.
Bonjour Marine, bonjour Arwan.
Vice-président délégué numérique et pédagogie innovante de l'Université d'Orléans et responsable scientifique du projet Pro 3, un projet de coopération entre 4 établissements de la région Centre-Val de Loire qui a pour but de rendre le numérique plus accessible dans l'enseignement supérieur. Et nous sommes aussi avec Clarisse Novello, bonjour.
Bonjour Marine, bonjour Erwan.
Responsable du Fab Lab Académique Polytech, un lieu d'innovation ouvert à tous qui permet de réaliser ses idées à travers de prototypes. Alors, petite question avant de rentrer dans le vif du sujet. Quel concept technologique aimeriez-vous voir apparaître dans l'enseignement supérieur ?
Il y en a déjà beaucoup. des concepts technologiques qu'on pourrait voir apparaître dans l'enseignement supérieur. J'en identifie pas beaucoup. Enfin, on travaille pas énormément, par exemple, aujourd'hui sur les aspects réalité virtuelle, réalité augmentée, mais c'est des domaines qu'on explore. Bon, je dirais que comme tous les domaines, il faut les utiliser là où c'est pertinent. Mais on peut s'attendre à des usages, notamment dans les domaines avec des applications dans le monde concret où on peut faire des simulations, des choses de ce type-là.
Et vous, Clarisse, vous avez une idée, quelque chose qui manquerait peut-être ?
Je dirais que ce qui est à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle.
Ah oui.
Parce que c'est vrai que la réalité virtuelle, réalité augmentée, bon, à Polytech Orléans, on l'exploite déjà. Donc c'est vrai que je dirais que la partie qui manque, ouais, ce serait la partie intelligence artificielle.
Très bien. Le premier thème qu'on va aborder, c'est l'utilisation du numérique libre dans l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vous utilisez des outils ou des logiciels libres dans vos projets et pourquoi ?
Alors, au Fab Lab, en effet, on est plutôt orienté sur les logiciels libres, car, parce que le but, c'est de pouvoir donner à chacun l'opportunité de créer ses propres programmes ou ses propres projets. Donc, ça fait partie. De tous les Fab Labs, je dirais en quelque sorte. Et en effet, c'est vrai que nous avons aussi des logiciels qui sont payants parce que ça n'existe pas ailleurs.
Oui, un peu la même réponse. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de... On favorise lorsqu'on le peut l'utilisation de logiciels libres. Alors ensuite, effectivement, soit parce que le produit n'existe pas, soit parce qu'il y a certains logiciels extrêmement identifiés dans le milieu professionnel, on va parfois effectivement utiliser des systèmes non libres. Mais effectivement, c'est un équilibre en fait, hein, entre fonctionnalité et une certaine... le mot de souveraineté est un peu à la mode, mais...
Vous en utilisez quelques-uns, mais d'une règle générale, est-ce que il y a des barrières à l'adoption de ces logiciels? Est-ce que vous aurez une idée de les surmonter s'il en existe?
C'est souvent des questions de fonctionnalité ou d'ergonomie, en fait. Et puis, mine de rien, aussi, il y a une forte dimension d'habitude. C'est-à-dire, une fois qu'un certain nombre d'utilisateurs ont pris l'habitude d'un logiciel, c'est assez compliqué de les faire passer à d'autres formats.
Et j'imagine que pour les utiliser, les étudiants ont besoin peut-être d'une formation, peut-être qu'ils n'ont pas... Enfin, une formation, peut-être que le mot il est un peu trop fort, mais d'une aide pour les utiliser, et, par exemple au Fab Lab pour pouvoir créer leur prototype, etc. Est-ce que vous les aidez? Comment vous le faites?
D'abord, ils sont formés, ils ont quelques heures de formation sur cet outil numérique. Mmh. Et ensuite, comme vous dites, ils peuvent être... Alors, le logiciel que j'utilise, oui, déjà, il est libre. Mais par exemple, enfin, je pensais justement au logiciel qui permet justement de trancher les pièces pour l'impression 3D. Il en existe donc un certain nombre. Et il suffit d'être formé sur un logiciel. Et je pense que enfin, sur les autres, on peut s'y retrouver assez facilement. Mais c'est vrai que ça manque. Enfin, il faut un petit peu de temps d'adaptation, comme vient de dire Mathieu, par rapport à l'ergonomie, justement, à l'interface graphique étant un peu différente. Quoi.
Oui, j'ajouterais bien que, en fait, la formation est... Des fois, elle est nécessaire là où on ne la voyait pas forcément venir. C'est-à-dire, suivant les publics, on peut avoir des utilisations du numérique qui ont l'air aisées, notamment pour les étudiants, qui ne le sont pas forcément. En plus, suivant l'origine des publics, on peut avoir certains types d'applications qui n'ont jamais été vues auparavant dans la scolarité et qui nécessitent une prise en main, une formation. Et puis, au-delà de la simple dimension d'interface, d'ergonomie, il y a également un certain nombre de choses impliquées par l'utilisation de ces applications. Alors, tout à l'heure, effectivement, Clarisse parlait de l'intelligence artificielle. Et notamment bon, tous les systèmes d'IA générative qui émergent depuis un peu plus d'un an maintenant nécessitent quand même un minimum de recul sur la propriété des données, sur les informations qui vont rester stockées dedans en fonction de la plateforme qu'on utilise, un peu de recul également sur la validité des réponses. Donc il y a besoin non seulement de se former à l'ergonomie, mais également au sous-jacent, qu'est-ce qui se passe réellement sous le capot de l'application, parfois.
On a parlé des avantages dont bénéficiaient du coup les étudiants avec ces logiciels, mais pour les enseignants, qu'en est-il? C'est différent?
Sur des jeux, logiciels libres?
C'est
ou...
ça.
Alors, c'est une bonne question.
Je pense que tu pourrais peut-être mieux en parler dessus, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt au contact des étudiants, les enseignants. Je vois pas... Non, on n'en discute pas beaucoup hein, sur, leur, ouais, sur les outils. Donc,
c'est un petit peu une question assez complexe à répondre. Sur certains, notamment sur tout ce qui est outils techniques dans l'enseignement, une large part des choix sont faits finalement par les enseignants eux-mêmes, en fonction de leurs besoins. Sur les outils davantage bureautiques, on peut imaginer un accompagnement, mais il ne me semble pas énormément fait actuellement. Enfin, on accompagne sur les outils qui sont disponibles. Mais j'ai pas l'impression qu'on aille forcément beaucoup actuellement sur une incitation au logiciel libre sur ces applications-là. On est plutôt sur les outils disponibles. Or, ceci dit, il y a des projets qui visent à améliorer cette dimension libre.
Et quel rôle l'open source joue dans le développement des outils numériques dans l'éducation, du coup?
Ah. Vous voulez dire en termes de disponibilité d'outils ou de librairie ou
Les étudiants, en fait, avec l'open source, en fait, qu'est-ce qu'ils gagnent, en fait?
C'est quoi les enjeux, en fait? C'est ouais. ça.
Alors,
pourquoi c'est important d'inculquer justement cette culture de l'open source face à la culture, en fait, du logiciel propriétaire? Quel apport ça, finalement, dans le cursus des étudiants et des étudiantes?
Donc, à la fois en dimension technique et également, je vais dire soft skills, bien que ce soit peut-être pas exactement le mot. Alors, déjà, ça leur donne une... Il y a quelque chose qui doit aller avec aussi, c'est une connaissance des mécanismes de licence. C'est-à-dire que ce soit les étudiants ou d'ailleurs les enseignants ne sont pas toujours au courant de ce que peut impliquer l'utilisation d'un logiciel en termes de licence. Et donc, c'est indispensable de bien comprendre cela. Également, lorsqu'on est davantage dans du développement logiciel, de bien comprendre que si on s'appuie sur certaines librairies avec des effectivement de type open source avec des licences assez ouvertes, il peut y avoir des mécanismes de report sur les logiciels développés par eux-mêmes. Ensuite, effectivement, ça permet de faire en sorte que les étudiants aient une visibilité un peu ensuite un peu de recul sur les logiciels utilisés et sur les implications à moyen terme en termes de lien avec un éditeur de logiciels, par exemple.
Donc il est vraiment important pour eux d'avoir accès à l'open source.
C'est une forme d'éducation à la citoyenneté.
Et niveau éco-responsabilité, comment voyez-vous l'impact que peuvent avoir les activités numériques sur l'écologie? Que vous auriez une idée.
Est-ce que tu veux répondre, Clarisse, ou est-ce que je commence?
Vas-y, commence, ça permet de...
Les impacts sont multiples, hein, parce que fabriquer un ordinateur ou un autre dispositif numérique, cela consomme beaucoup de ressources. On parle notamment souvent de ce qu'on appelle le sac à dos écologique. On estime que pour fabriquer un kilo d'ordinateur, il faut à peu près 500 kilos de matières premières. Ensuite, ça consomme à l'usage parce qu'il faut de l'électricité produite dans des conditions diverses et variées pour faire fonctionner les machines. Ensuite, tout est interconnecté, donc il faut faire fonctionner le réseau, il faut faire fonctionner éventuellement un data center dans lequel on va stocker des données ou on va peut-être utiliser des applications, ce qu'on appelle en mode SaaS, hein, c'est-à-dire disponible via le data center. Donc les impacts sont multiples et peuvent dépendre également du type d'application utilisée. Donc là, il y a un besoin de sensibilisation globale.
Et quels sont vos défis, vous, pour impacter le moins possible l'écologie avec vos différents projets?
Parce que j'imagine que dans un Fab Lab, on a accès à beaucoup d'appareils, beaucoup de machines qui produisent des déchets. Y a quoi? Peut-être des imprimantes 3D, des appareils de découpe en termes de gestion de ces déchets-là. Comment est-ce que c'est géré? Est-ce qu'ils sont revalorisés après?
Alors nous avons toujours, je dirais, des chutes ou des fins de filaments, etc. Et il est vrai que le Fab Lab accueille aussi, je dirais, des groupes scolaires, et notamment sur la matière première, par exemple sur la tout ce qui est lié aux chutes de bois, eh bien, c'est vrai que j'ai pu le revaloriser en donnant du coup aux groupes scolaires, comme ce sont des élèves de primaire, quoi, CP en CM2, et qui peuvent justement après, à partir donc de ces chutes-là, soit reproduire des formes ou retravailler peut-être sur le calcul de surface, etc. Ensuite, sur l'impression 3D, c'est vrai que là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, moi, pour l'instant, ce que je fais avec les chutes, bon, il faut savoir que tout ce qui est matériaux sur l'impression 3D, ce sont des matériaux qui sont périssables et donc il faut quand même consommer assez rapidement. Et parfois, c'est vrai qu'il peut me rester genre 20 ou 30 grammes donc, sur la bobine. Bon, bah, je finis ces bobines en goodies, généralement. Voilà, donc je réalise surtout les salamandres qui utilise à peine 10 grammes et puis après je les donne, voilà.
Alors qu'est-ce que c'est ces petites salamandres?
Ah, c'est vrai que j'en ai pas porté.
Alors je pose la question sachant que j'en ai déjà vu, mais c'est des petits objets un peu porte-clés qui se baladent et qui sont complètement articulés, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça, exactement. Oui, ça intéresse, bon, ça intéresse la plupart du temps donc tous les visiteurs, donc voilà. Donc et puis en plus ce sont des, c'est un, comme on parlait donc de d'outils libres, eh bien le modèle 3D est libre.
Donc c'est-à-dire que le modèle 3D, on peut y accéder sans payer. Il est en distribution libre.
Oui, exactement.
Est-ce qu'on peut peut-être rappeler un petit peu ce qu'est un Fab Lab et quel type d'appareil on retrouve au Fab Lab de Polytech?
Alors en fait, oui, donc un Fab Lab, on en trouve un peu partout dans le monde. Hein. Donc c'est une structure qui met à disposition des machines-outils. En fait, le concept, c'est aussi c'est d'apprendre en fabriquant par soi-même et de partager son savoir-faire. On va dire la plus grande partie. On y trouve notamment donc, des imprimantes 3D. C'est vrai qu'à Polytech Orléans, on est plutôt sur un atelier de fabrication numérique. Et donc, nous avons un certain nombre d'outils connectés à un ordinateur, dont les imprimantes 3D, une découpeuse laser, une brodeuse numérique.
Qu'est-ce que c'est que ça, une brodeuse numérique? Ça permet de faire de la broderie, c'est ça?
Exactement, ça
de
permet de
numérique.
Exactement, oui. Vous dessinez vous-même votre motif et ensuite vous le convertissez en point de couture grâce à un logiciel et vous l'envoyez à la machine qui justement brode le motif.
Ça vient d'où l'idée de faire ce... C'est quoi l'origine en fait de ce Fab Lab? Pourquoi est-ce que Polytech a dit on va créer un Fab Lab?
Ça va être plutôt pour donner accès aux étudiants afin qu'ils puissent concrétiser leurs idées et afin qu'ils apprennent aussi quand ils ont des projets, de pouvoir rendre un projet, on va dire, commercial. Et donc, cela leur permet aussi de voir qu'en effet, la pratique, eh bien, ça demande du temps aussi. Ouais.
Et c'est ouvert à tous les étudiants en accès libre ou uniquement aux étudiants et étudiantes de Polytech?
En fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc, même un particulier, une entreprise peut tout à fait venir visiter et puis utiliser les machines. Comme c'est à l'intérieur, c'est un service de Polytech Orléans, je vais plutôt privilégier donc, les credos qui sont vraiment liés au projet à nos étudiants quand il y a un besoin.
Et on fait comment? On arrive, on paye une adhésion ou est-ce que c'est vraiment un accès libre? On a juste à présenter par exemple sa carte d'étudiant ou dire je suis un particulier et c'est
non.
Parti. Il n'y a pas de participation, c'est vraiment libre.
Non, c'est justement, j'allais dire non, c'est pas libre. Il faut quand même venir se présenter. Il y a une première cotisation pour un étudiant qui reste relativement abordable et qui permet d'accéder. Alors pour un étudiant donc, de l'université d'Orléans, ça va être 10 euros et sur les 10 euros cela lui permet donc d'accéder à une formation et quelques heures de réservation machine.
Un autre projet de l'université d'Orléans, c'est donc Pro 3. Je me tourne vers vous Mathieu. Marine, je crois que tu as des questions sur Pro 3.
Oui, alors pour Pro 3, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous est venue l'idée d'aider les enseignants et les étudiants à avoir plus, avoir accès au numérique plus facilement en fait?
Alors tout d'abord Pro 3, c'est un projet assez vaste qui fait partie d'un ensemble de projets nationaux qui s'appelle les DEMO ES, démonstrateurs numériques de l'enseignement supérieur, et donc il y a 17 lauréats au niveau national. Et le projet Pro 3 regroupe plusieurs facettes. Certaines sont liées à l'innovation pédagogique, d'autres plutôt au numérique responsable. On travaille aussi sur, par exemple, sur les open badges et sur d'autres outils dont nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure, comme ce qu'on appelle le VDI, par exemple. Alors, comment est venue l'idée? C'est un petit peu compliqué de répondre pour moi parce que le projet... je n'en suis pas à l'initiative en fait, c'était un projet qui a été mis en place, écrit avant que je sois vice-président au numérique. Alors je pense que globalement, il y avait quand même un besoin exprimé sur les différents établissements en lien avec, avec d'autres activités. Alors, il y a effectivement cette, cette dimension numérique responsable qui prend de, quand même de l'ampleur dans, dans les établissements. Il y a également tout ce qui va être accès aux, aux outils physiquement et puis accès à des, à, le plus facilement possible à des formations, à des applications, que ce soit pour les enseignants ou également pour les étudiants.
Concrètement, dans leur, dans leur semaine, comment on voit le changement en fait, avec votre projet ?
Alors, pour l'instant, on ne le voit pas encore trop, parce que c'est un projet encore assez... assez enfin, les grands projets comme ça, ça se mesure vraiment en nombre d'années. Alors, ça, ça peut paraître énorme déjà, mais c'est un projet qui n'a démarré que depuis 2 ans.
D'accord.
Donc, on termine un certain nombre de mises en place. Mais alors, qu'est-ce qui va pouvoir jouer à terme sur la, la vie de l'étudiant par rapport à Pro 3 ? Alors déjà, il aura à sa disposition un certain nombre de, d'informations sur les aspects numériques responsables. Il devrait pouvoir, dans une certaine mesure, alors, c'est pas forcément des accès directement pour tout le monde, hein, ça va être en fonction des besoins, mais il pourra avoir accès à des serveurs sur lesquels on fait tourner différentes applications de manière à éviter que les étudiants aient besoin... je vais commencer par là. On a un projet qui s'appelle du VDI. Alors VDI, on peut traduire ça en français par infrastructure de bureau à distance. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir un environnement de travail complet installé sur un serveur. Et donc l'utilisateur ne fait sur sa propre machine que la visualisation de cette application distante. Donc ça peut aller au-delà d'une application. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on travaille sur Windows, sur sa machine, avec un certain nombre d'applications disponibles, mais en fait tout est sur un serveur. Alors ça peut présenter plusieurs avantages. Déjà, ça peut éviter d'avoir à installer ce qu'il ne faut pas faire du tout, des logiciels qu'on n'aurait pas le droit d'installer sur sa machine. Mm-hmm. Ça peut aussi éviter... Enfin, du coup, la machine de l'étudiant n'a pas besoin d'être puissante puisque tout est calculé à distance. Il faut juste faire de l'affichage. Donc ça peut éviter d'avoir des problèmes d'installation de logiciels un peu lourds, un peu compliqués. Ça permet à tout le monde de travailler dans un environnement homogène, éventuellement de travailler aussi à distance sur ses propres horaires. Donc ça donne potentiellement un peu de souplesse dans la façon de travailler avec les logiciels. Donc ça, c'est pour la partie VDI. On a également un autre projet qui démarre, qui est la possibilité pour les étudiants de disposer d'un outil permettant de s'entraîner à l'expression orale. Donc avec des questionnaires types où la personne peut s'enregistrer, visionner ensuite ce qu'elle a fait et éventuellement transmettre les enregistrements à un enseignant par exemple, ce qui permet de s'entraîner à des entretiens de stage, d'embauche ou à toute autre forme de soutien, de projet, etc. Et puis il y a certainement des tas d'autres dimensions dont j'ai oublié de parler. On a un petit morceau dans Pro 3 qui concerne la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est peut-être pour ça que j'en parlais tout à l'heure. C'est un petit morceau, mais qui consiste à faire travailler un groupe d'étudiants de l'IUT sur le développement d'une séance de TP à base de réalité virtuelle. Donc il y a à la fois une dimension, l'utilisation de l'outil, mais également une appropriation des méthodes de réalisation de ces outils par les étudiants.
D'accord. Avec un projet comme ça dans l'enseignement supérieur, en fait, il y a une idée de collectif. Et quels sont les principaux défis liés à la collaboration dans un environnement numérique ? Et si vous avez dû y faire face, comment vous les avez surmontés ?
Alors, c'est une la collaboration entre les établissements du projet ou
Avec les établissements, oui, mais aussi entre étudiants et enseignants.
Alors c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. Entre étudiants et enseignants, quelque part, les questions se sont vraiment posées aussi quand on a eu la période de Covid et de confinement, où a été un petit peu compliqué. Alors, c'est un petit peu... en partie en dehors de Pro 3, mais effectivement, on réfléchit également à la mise en place de systèmes d'hybridation d'enseignement, où on envisage que les étudiants puissent suivre sur un module une partie en autonomie et puis une partie en présentiel de manière traditionnelle. Ceci afin de donner un peu de souplesse dans les emplois du temps pour les étudiants, une possibilité de retravailler les cours aussi par soi-même. Donc, mais pour ce qui est de la collaboration, dans toutes ces démarches, on conserve également ce qu'on appelle des temps de rassemblement. Donc ça peut être des forums, ça peut être des chats ou des temps de rassemblement physiques. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on a bien observé, et c'est plutôt une consigne en général pour tous les gens qui font de l'hybridation d'enseignement comme cela, il faut garder des temps d'échange entre enseignants et étudiants et bien les matérialiser à l'avance.
C'est quels sont les avantages en fait pour les étudiants, les professionnels aussi et les professeurs, vu que des professionnels, des particuliers peuvent aussi venir au Fab Lab, j'ai pensé, de participer à des projets collaboratifs. En fait, ils y gagnent quoi, les étudiants? Oui, ils ont une formation, oui, ça les aide, mais...
Quel apport dans leur cursus?
Oui, dans leur cursus pour les étudiants, mais pour les professionnels aussi.
Pour les étudiants, de rencontrer des professionnels, c'est une richesse, quoi. Mm-hmm. Ouais, de discuter un petit peu de leurs projets. Donc, le particulier, bon, peut-être un peu plus c'est un peu plus délicat, mais ce que je peux rencontrer, c'est un auto-entrepreneur, voilà, qui peut aussi chercher. Un besoin technique et qui peut être aidé par un étudiant aussi.
Ça leur fait une expérience un peu
pour l'étudiant, ça permet... Oui, c'est ça, pour l'étudiant, ça permet de découvrir un petit peu ce que c'est que le monde du travail, de collaborer avec cet auto-entrepreneur. Et puis l'auto-entrepreneur, lui, il gagne parce que justement, l'étudiant va apporter sa partie technique et pouvoir l'aider sur son projet, quoi. Ça...
Comment faire aussi pour pousser les étudiants à participer à des projets collaboratifs? Parce que ça peut peut-être... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants qui ont envie de se lancer dans des projets où il y a beaucoup de monde.
Alors ça dépend ce qu'on entend par beaucoup de monde. Il y a plusieurs dispositifs à l'université, plus ou moins formalisés, qui conduisent à des choses collaboratives, notamment des projets dans le cadre des formations, des cursus.
Ok.
Et effectivement, je ne pense pas trop m'avancer en disant que lorsqu'il y a un enjeu avec derrière une entreprise ou une association, enfin quelqu'un qui propose le sujet, il y a une sorte d'obligation un peu morale de résultat plus marquée que lorsque c'est un pur projet proposé par un enseignant. Donc là, il y a un petit challenge et puis une motivation supplémentaire. Par contre, c'est vrai que l'aspect coordination, collaboration nécessite aussi quelque part souvent des outils, alors qu'ils soient numériques ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être de la pure méthode, mais également des outils peuvent aider. Après, je pense que d'une branche de l'université à l'autre, l'utilisation de ces outils peut varier, en fait, est souvent plutôt liée aux formations et à ce qui est enseigné dans les formations.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau de Radio Campus Orléans pour Ondulation. Alors peut-être avant de vous donner un dernier mot, une question que je pose à tous les invités qu'on reçoit sur le plateau d'Ondulation. Alors cette année, le thème c'est 88.30 ans, c'est le sous-titre de cette édition de Ondulation, étant donné que ce sont les 30 ans de Radio Campus Orléans. Alors j'aimerais avoir un petit peu votre point de vue sur quelle importance, quelle relation est-ce qu'il y a entre une université et les médias, et plus particulièrement entre l'université et un média comme Radio Campus Orléans. Et admettons, essayons de visibiliser les choses dans 30 ans. Comment est-ce qu'on arrivera à travailler ensemble? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir apparaître entre l'université et un média radiophonique comme Radio Campus? Mathieu, peut-être?
On a à l'université une chargée de mission sur la science avec et pour la société. Je pense que multiplier les occasions d'échange à fois la méthode scientifique, les avancées scientifiques, et puis l'ouvrir au plus grand nombre, que ça est un élément important.
Clarisse?
Alors, je vois pas, pour l'instant, je ne sais pas trop par rapport à l'avenir.
Est-ce que vous écoutez la radio?
Alors, honnêtement, non, je l'écoute pas. Ça peut m'arriver de tomber dessus. Et puis, si vraiment il y a un sujet qui m'intéresse, dans ce cas-là, je l'écoute. Mais à part cela, non. Quand, la dernière fois, comme j'étais aussi interviewée, ben, dans ce cas-là, je suis allée voir un petit peu ce qui est proposé. Mais c'est vrai que ce n'est pas mon réflexe. Donc, je ne sais pas comment on peut amener à ce que, justement, l'ensemble de l'université ait ce réflexe en disant « Tiens, ce matin, voilà, en prenant ma voiture, je vais écouter Radio Campus. » Parce que c'est vrai que...
Et la radio de manière générale ?
La radio, oui, de manière générale, je l'écoute quand je conduis. Je mets France Bleu Orléans parce que, c'est, en effet, c'est lié par rapport aux actualités de la métropole orléanaise. Donc, en effet, peut-être que... Alors, je ne sais pas si ça peut se switcher, mais si on peut switcher très rapidement, peut-être... comme ça, juste avant de venir, hop, un petit actu sur ce qui se passe à l'université.
En tout cas, nous, pour nous switcher, c'est en FM sur le 88.3 FM et également sur notre site internet, c'est orléans.radiocampus.org. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Mathieu ?
Rapidement, oui, en fait, il y a plein d'aspects de Pro 3 que je n'ai pas abordés, donc vous pouvez les consulter dans votre moteur de recherche, vous tapez Université d'Orléans Pro 3 et vous tomberez sur des autres aspects, notamment sur le numérique responsable. On a plusieurs actions en cours.
Alors c'est quoi le numérique responsable ?
À la fois sur des bonnes pratiques, éviter de changer d'ordinateur ou de téléphone tous les 6 mois. Donc quand même, le gros impact, c'est l'impact physique du numérique. Donc effectivement, éviter de se suréquiper et de se rééquiper sans arrêt. Et puis également sur les usages un peu mesurés, bien que l'impact soit souvent un peu plus compliqué à quantifier.
Et comment on fait pour bénéficier directement Ouh, j'ai perdu mon mot, super. C'est que le lundi, il reste toute la semaine d'ondulation à faire. Ce que j'imagine, autant j'allais dire pour le Fab Lab, où est-ce qu'on peut retrouver le Fab Lab, où est-ce qu'on peut retrouver et bénéficier directement justement des applications de Pro 3 ?
Alors sur la page web de Pro 3, il y a une rubrique ressources, et puis en se promenant dans les différentes pages, il y a des vidéos, des petits guides pratiques, des informations diverses et variées.
Et le Fab Lab, où est-ce qu'on le retrouve ? Quand est-ce qu'on peut aller au Fab Lab ?
Ah ouais, le Fab Lab, il est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué pour rentrer à Polytech Orléans parce que c'est accessible par badge. Mais en tant que visiteur, vous pouvez venir visiter quand vous le souhaitez. Entre midi et deux, je vais déjeuner comme tout le monde. C'est ouvert, c'est ouvert, donc vous pouvez venir. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un pour vous présenter les différents équipements et puis les différentes réalisations, donc il vaut mieux prendre rendez-vous avec moi. Mais sinon, vous pouvez venir quand vous le souhaitez visiter. Et puis, il y a aussi des objets que vous pouvez voir qui sont en vitrine.
Et sinon, il y a un numéro de téléphone, j'ai un 02 38 49 45 60, c'est bien ça ? On peut appeler ?
Oui, c'est bien cela, oui, vous pouvez appeler. Il y a aussi le site internet, j'avais oublié, où vous pouvez retrouver la disponibilité des machines. Vous avez aussi des notices pour utiliser les machines. Et puis, oui, vous avez pratiquement tout.
Merci beaucoup Clarisse Novello. Alors responsable de service, c'est comme ça qu'on peut vous présenter.
Oui, responsable du service. Oui.
Du Fab Lab de Polytech et Mathieu Exbaria, vice-président de l'Université d'Orléans sur les questions du numérique et de la pédagogie innovante. Je l'ai bien dit.
C'est bien ça.
Restez avec nous sur Radio Campus Orléans, il est midi 42.
Fac, écoute. Écoute ta fac.
Ondulation.
Du 27 au 31 mai 2024, Radio Campus installe son studio au Bouillon pour la deuxième édition du festival Ondulation 88.30 ans, qui s'inscrit dans la programmation des 30 ans de Radio Campus Orléans. Émissions, ateliers, performances et concerts sont prévus au programme.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Cette année, Ondulation s'intéresse aux médias et leur lien avec le numérique libre. Au travers des émissions spéciales à venir écouter en direct et en public au Bouillon, le centre culturel de l'Université d'Orléans. C'est une véritable analyse de l'évolution de nos médias sonores et des modes d'écoute qui s'opérera. Entre numérique libre et liberté d'expression sur les réseaux sociaux des GAFAM, le tout en partenariat avec la radio québécoise CIFAC 88.3. Alors restez à l'écoute de Radio Campus 88.3 pour savourer les émissions spéciales Ondulation.
Ondulation est soutenue par l'Université d'Orléans dans le cadre du Grand Bain, la région Centre-Val de Loire dans le cadre des Human Tech Days, par l'Office franco-québécois pour la jeunesse et le CROUS d'Orléans Tours.
Yeah. Bound by Endogamy de Going to the Mind sur Radio Campus Orléans. Vous êtes avec nous sur cette édition spéciale d'Ondulation. Restez avec nous. Ondulation, c'est toute cette semaine de aujourd'hui, lundi 27 jusqu'à vendredi 31. On se donne rendez-vous pour une bonne vingtaine d'émissions. Alors, il y aura des émissions toute la semaine, des éditions spéciales d'Écoute à Fac et de vos quotidiennes et hebdomadaires habituelles. On aura tout à l'heure à 14h une édition spéciale de la Science Infuse que Quentin vous prépare. Et avec nous, avec Marine, on va être à l'antenne de midi à 13h tous les jours jusqu'à jeudi pour justement parler un petit peu de numérique au travers de l'Université d'Orléans. Une vingtaine d'émissions spéciales, parmi elles des émissions spéciales d'ondulation. On va parler justement de médias et de numérique libre et surtout de numérique libre. Alors on va parler justement de censure, de liberté et censure des médias. On va parler des alternatives aux réseaux sociaux des GAFAM, donc Facebook, Instagram, TikTok. Comment est-ce qu'on peut faire autrement justement avec de l'open source? On va également parler de musique, de plateformes d'écoute, de radio locale, de radio musicale, comment faire fonctionner tout cet écosystème ensemble pour justement l'amour de la découverte de musique indépendante, de musique d'artistes qui sont peu médiatisés et qui ont besoin de structures comme les nôtres, des radios comme les nôtres pour pouvoir justement être diffusées. On en parlera, ça sera sur la journée de jeudi. On parlera également de sport, de visibilisation des minorités dans le sport. Ça sera une émission qui sera diffusée demain, mardi 28, de 16h à 17h. On parlera d'éducation aux médias en région Centre-Val de Loire. On parlera également d'accessibilité des médias. Alors, c'est une émission qui devait avoir lieu demain, mais elle sera reportée un peu plus tard, puisque à l'organisation de Radio Campus Orléans, on s'est bien rendu compte qu'en effet, tout ce monde, en fait, des personnes sourdes et malentendantes, c'est un monde qui est très, très complexe et que pour avoir des interprètes, c'est très, très compliqué. Donc, on a vraiment découvert quelque chose et je tiens vraiment absolument à vous le faire découvrir. Donc c'est une émission que vous pourrez découvrir un peu plus tard dans la saison. Mais voilà, ce programme, vous le retrouvez en intégralité sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Il y aura donc ces émissions spéciales, deux ateliers qu'on vous propose, mardi et mercredi de 16h à 19h. Mardi, on créera en fait une web radio en utilisant que des logiciels open source. Et mercredi, on fera de la composition musicale en utilisant comme matière première des ondes radio, tout simplement. C'est à découvrir. Allez vous inscrire également sur notre site internet via les billets que vous pouvez retrouver via le site également du Bouillon. Donc allez sur notre site internet, hein, c'est orléans.radiocampus.org et vous trouverez toutes les informations. Vous êtes guidés par la main pour réserver vos places et que serait un festival sans musique. Donc on se donne rendez-vous ce jeudi 30 mai à partir de 20h au Bouillon dans le théâtre pour découvrir une programmation qui, ma foi, est fort sympathique, une programmation avec Orange Pression. Alors Orange Pression nous fera le plaisir d'avoir un live un petit peu sinusoïdal, c'est un mot qui n'est pas forcément facile à dire mais j'ai réussi à le dire, je suis content. On aura également Plot et FZ. Alors Plot et FZ, ça va être du live coding, c'est utiliser des lignes de commande pour générer du son, pour faire de la musique tout simplement, et avec une super performance de VJing. Le VJing, en fait, c'est comme du DJing tout simplement. C'est comme de la musique, sauf que c'est pas de la musique, en fait c'est de l'image. Et du coup, on aura le droit à avoir de super projections d'images, d'objets qui vont s'enchaîner et nous emmener dans un monde complètement immersif et assez onirique. Et en interplanto, vous retrouverez Intida et Klaus. Intida et Klaus que vous avez découvert cette année également sur les apéros audio de Radio Campus Orléans le dernier vendredi du mois au 108. Intida qui a mis le feu sur la scène de Gig 3, c'était il y a un moi déjà. Et Klaus, que vous avez également découvert sur l'apéro audio, si je dis pas de bêtises, c'est l'apéro audio de février, Carnaval des Fous, qui pareil a ambiancé la scène du garage du 108. Donc, ils et elles seront à retrouver ici au Bouillon, le centre culturel de l'Université d'Orléans, qui nous héberge pendant une semaine dans le cadre de leur festival de la création étudiante Le Grand Bain. On est également soutenu par le CROUS d'Orléans Tours, par l'Université d'Orléans et la région Centre-Val de Loire au travers des Human Tech Days. Et cette année, on en parle tout de suite. Où est-ce que je mets un petit son? Je me tourne vers mes techniciens, mes techniciennes, vers Marine. Est-ce que vous voulez écouter de la musique avant de parler du Québec?
Oui.
Allez,
oui.
On met un petit peu de musique. Allô, voilà de Ben 6 sur Radio Campus Orléans.
look how we bad. Benzes, look how we bad. Yeah, it's the collective stagnation blocking flow to all of them areas and making me wonder, bro, what they putting in your cereal. But something looking good, cooking beyond the horizon. The task is manifesting destinies despite all the surviving. Infinity, 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 infinito. 0 to 100, incognito, too bonito. Yo, don't touch me with that ego, cause ya ego, I'm a vito. A bandito, infinito, a bandito. Ego, ego, vito. Look how we bend. Benzes, look how we bend. Benzes, look how we bend. Miracles on the pinnacle, still feeling jaded and cynical, cynical, cynical. Though I got so much to be grateful for, a miracle, miracle. Soon they come knocking at my door. It's funny how money does change them situations. When you on top, everyone flock. When you are not, nobody knock. Or even called in consideration. Yo, it's queendom 101. What good is the gold if you got holes in your energy system? Energy system. Yo, 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 where you coming from? Yo, I got a lot of thunder and I used to eat the sun. You don't have to get it to be empathetic, love. Got dealt the heavy hand and now my poker face is on. Look how we been, sis. Look how we been. Been, sis. Look how we been. Look how we been. Been, sis. Look how we been. Look how we been, sis. Look how we been. Been, sis. Look how we been. Been, sis. Look how we been. Look how we been, sis. Look how we been.
Allô, voilà de Ben 6 sur Radio Campus Orléans. Et comme d'habitude, on vous fait découvrir cette programmation musicale féminine, féministe, qui met également à l'honneur les minorités de genre. C'est à découvrir également cette semaine, tout comme vous l'avez pu la découvrir pendant tout le mois de mars lors de ce grand format Aphrodite. Je tiens à dire... Cette semaine est assez particulière pour une deuxième chose, parce que bah, vu qu'on a un beau plateau qui est éclairé de mille feux par des super éclairages au bouillon, on s'est dit, bah, en fait, on va mettre des caméras. Donc déjà, j'aimerais remercier le service audiovisuel de l'Université d'Orléans qui, pendant une semaine, vont nous suivre. Et vous pouvez suivre donc, toutes les émissions qu'on va réaliser, toutes les émissions radio qu'on va réaliser en direct. Vous pourrez les retrouver en fait, sur notre live YouTube. Donc n'hésitez pas à passer par notre site internet. Encore une fois, il y a tous les liens pour aller sur YouTube et puis nous regarder en live. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je fais coucou à la caméra pendant ce temps-là. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, si vous n'êtes pas en train de conduire, vraiment, si vous conduisez, ne regardez pas le live YouTube, s'il vous plaît. Sauf si vous avez quelqu'un sur les autres sièges passagers, il n'y a aucun problème. Regardez la route. Et puis, pour les autres, si vous êtes chez vous ou en train de manger, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour nous regarder et nous écouter sur ce live YouTube. Je le disais, cette année, on a également un financement... exceptionnel. On est suivi par l'Office franco-québécois pour la jeunesse sur ondulation et d'autres projets en fait, c'est parce que c'est vraiment tout un package dans le cadre de ces 30 ans de Radio Campus Orléans. L'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un organisme bigouvernemental qui permet en fait de pouvoir donc financer et soutenir en fait des projets culturels entre la France et le Québec. Et cette année, ils nous suivent, ils sont avec nous et grâce à leur précieuse aide, on a une équipe d'une radio québécoise qui s'appelle CFAQ. Leur site internet, c'est cfaq.ca. Comme Canada. Allez checker ça, ils sont vraiment formidables. Et en fait, on a 6 personnes de CFAQ qui débarquent demain à Orléans pour faire la fête avec nous, pour faire des émissions radio avec nous sur Ondulation, sachant qu'après, on va faire des Olympiades radiophoniques. Là, dans une semaine, on est en train de faire des Olympiades radiophoniques avec eux. Et après, il y aura les rencontres nationales Radio Campus France. Ils y participeront également, sachant que, chers publics, chers auditeurs et chères auditrices, vous pourrez venir, en fait, déjà, venez à Ondulation. toute cette semaine au Bouillon si vous souhaitez venir nous rencontrer. On sera ravis en fait de discuter avec vous, de vous faire voir un petit peu notre univers en chair et en os. Et également sur cette rencontre nationale des Radio Campus, vous pourrez venir en fait le soir, le vendredi et le samedi soir, on sera au 108 pour deux apéros audio des 30 ans en fait avec toute la team des Radio Campus qui sera avec nous, deux apéros audio spéciaux 30 ans qu'on vous fera découvrir à grand public. Et ça se fait également, c'est pas tout beau, dans le cadre de la fête de la radio qui tombe en plein en cette période. Donc vraiment, c'est assez fantastique tout ce qu'on vous propose comme programme. Allez checker ça, encore une fois, la programmation sur notre site internet, ça va être franchement, ça va être hyper cool. T'es prête? T'es partante? T'as envie, Marine?
Je suis partante, impatiente même.
Il y a des trucs dans la programmation des jours qui viennent qui te tient particulièrement à cœur, que t'aimerais voir
Bah moi, j'attends surtout, là, déjà jeudi soir, les concerts.
Les concerts de Orange Pression, Plot FZ, Inti Da Klaus.
J'attends jeudi, oui.
Ouais. Bah franchement, n'hésitez pas, encore une fois, hein, la billetterie, c'est sur notre site internet, donc allez réserver vos places pour être sûr d'en avoir, parce que ça va être cool. Vraiment, faut surtout pas manquer ça. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Il est midi 59 dans une dizaine de secondes. Donc, à tout à l'heure, vous retrouverez La Science Infuse. À 15h, vous retrouverez donc évidemment Le Moulin à Parole. Ensuite, le reste de la journée, vous retrouverez à 17h In The Garage, suivi du Saint-Disque. 19h, 20h, l'émission du Fictionnaire, suivi de T'en veux, c'est de la bonne. Et enfin, jusqu'à 23h, il y aura Tentaculation suivi de Ground Control. Vraiment, ça a été un plaisir d'ouvrir ce plateau avec toi, Marine.
Moi aussi, c'était un plaisir de partager avec toi.
Et on te retrouve bien évidemment dès demain pour de nouvelles aventures radiophoniques sur Radio Campus Orléans. Et puis voilà, bel après-midi à vous, chers auditeurs. Bon après-midi à vous, chères auditrices. Restez à l'écoute de Radio Campus Orléans.
Médias et numérique libre. Ondulation.
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 Ondulation. Ondulation.